C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Bras.
Bonjour, apprendre à regarder avec humilité ce que la nature a élaboré durant 4,5 milliards d'années pour s'en inspirer, c'est le principe du biomimétisme, une science en plein essor qui génère des innovations dans tous les domaines. Les scientifiques, les industriels, les étudiants et tous ceux que cette démarche passionne se sont donné rendez-vous pendant deux jours à Senlis, à 50 km au nord de Paris, pour Biomim Expo, le premier salon du biomimétisme, et c'est là que nous avons installé notre studio.
C'est pas du vent sur RFI.
Bonjour Kalina Raskin.
Bonjour.
Vous êtes la directrice scientifique du CEBIOS, le Centre européen d'excellence du biomimétisme, où nous sommes actuellement. C'est un campus de 10 hectares qui a été transformé, à l'origine c'était une base militaire je crois, qui a été transformé donc, pour accueillir ce centre. C'est vous qui avez eu l'idée de créer Biomim Expo, donc cette première édition. Quel est le principe ?
Alors, Biomim Expo est une initiative effectivement portée par l'équipe du CEBIOS et de tout son écosystème. Parce qu'on a fait le constat qu'il y a eu beaucoup d'événements effectivement académiques autour du biomimétisme. C'était souvent des événements passionnants, certes, mais confidentiels à la communauté de chercheurs. Or, il y a besoin, pour que le biomimétisme émerge en France, d'une appropriation par l'ensemble des parties prenantes, aussi bien donc académiques, bien entendu, PME, entreprises, grands groupes, mais aussi le monde politique. Et donc, il y avait besoin de faire un événement qui permette de répondre à ces attentes-là et permette de sensibiliser toutes ces personnes-là. Donc il y avait à la fois un enjeu de sensibiliser tout ce monde-là et puis de faire un lieu de rencontre et un événement de rencontre où ces parties prenantes-là n'avaient pas jusque-là d'opportunité pour le faire.
Alors, il y a combien d'intervenants à peu près ?
Alors, on a plus de 70 intervenants exposants qui sont présents aujourd'hui et près de 700 visiteurs attendus sur les deux jours. Voilà, donc on est très contents.
Notamment beaucoup de jeunes.
Beaucoup de jeunes parce qu'on constate que la nouvelle génération d'étudiants, notamment ingénieurs scientifiques, sont extrêmement attirés par cette démarche-là, qu'on a aujourd'hui des conditions qui pourraient permettre à ces étudiants-là de se former au biomimétisme. On a une attente maintenant émergente de grands groupes industriels pour avoir ce type de profil pluridisciplinaire dans les équipes de R&D. Et c'est vrai que jusqu'à présent...
Recherche et développement.
Et c'est vrai qu'on a quand même une éducation relativement en silo en France encore. C'est pas qu'en France, d'ailleurs, dans beaucoup de pays. Et le biomimétisme, c'est de la pluridisciplinarité. Et les étudiants sont en attente, justement, de pluridisciplinarité.
Alors, l'objectif, c'est de faire découvrir le biomimétisme. Vous le disiez, on peut peut-être... Je disais en introduction, c'est regarder avec humilité ce que la nature a réussi à élaborer en 4,5 milliards d'années. C'est ça, le principe ?
Alors, c'est entre 3,8 et 4 milliards d'années.
Oui,
c'est pas grave, je pense que de toute façon, à ces échelles-là, on a du mal à se le représenter. Oui, effectivement, et ce qui est intéressant de voir, c'est que toutes les grandes stratégies qu'on est en train de mettre en place aujourd'hui en termes d'innovation, la stratégie de transition énergétique, le cahier des charges de la chimie, douce, verte, les nouveaux écomatériaux, la gestion de l'eau, on est en train de converger vers ce que le vivant a obtenu au travers de l'évolution. Donc on réinvente par nos réflexions, nos réglementations, l'épuisement de nos ressources vers ce que le vivant a sélectionné au cours de l'évolution.
Alors justement, avec nous autour de cette table, on a sorti quelques intervenants des salles de conférence. Il y a plusieurs innovateurs dans des domaines, vous allez l'entendre, extrêmement différents. Bonjour Franck Zahl.
Bonjour.
Donc en quelques mots, on reviendra un peu plus en détail sur votre démarche, mais avec votre entreprise Emarina, vous pratiquez le biomimétisme, vous, dans le domaine de la santé.
Oui, tout à fait. On s'inspire en fait de l'évolution aussi à travers des adaptations qui ont été développées chez des vers marins pour en créer des produits thérapeutiques donc pour le domaine de la santé, notamment dans la transplantation d'organes, dans les substituts oculoglobulaires, substituts sanguins ou des pansements qui permettent d'accélérer la cicatrisation.
Pierre Pajot, bonjour.
Bonjour.
Vous, avec le projet Ferme d'Avenir, c'est dans le domaine de l'agriculture, en quelques mots.
Tout à fait. Alors l'idée, c'est d'appliquer les principes du biomimétisme à l'agriculture. Donc on appelle ça la permaculture. Alors ce n'est pas la définition officielle, mais en tout cas, c'est le principe. Vous le rappeliez juste avant, la nature, en plusieurs milliards d'années, a tout inventé. L'être humain n'a rien inventé. Donc nous, par une phase vraiment d'humilité et d'observation, on essaie de dupliquer les processus naturels extrêmement efficaces au monde de l'agriculture.
Laurent Gilibert, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes responsable de l'innovation durable pour le groupe L'Oréal, preuve que les grands groupes s'intéressent aussi au biomimétisme.
Tout à fait. Depuis maintenant quelques années, nous sommes engagés dans un grand programme de développement durable dans lequel on veut inscrire le développement durable comme une stratégie de l'entreprise et une vraie modification. Et notre CEO Jean-Paul Agon nous a mis dans cette direction. Et le biomimétisme est un des moyens d'innover de façon durable en s'inspirant de la nature et de ce que la nature a fait depuis des milliards d'années.
Bonjour Franck Clément. Alors à l'École des Mines de Nancy, qui forme des ingénieurs, vous pariez aussi sur le biomimétisme.
Effectivement, donc c'est des cours qui sont proposés notamment en troisième année d'école d'ingénieurs, des ingénieurs généralistes, donc ils vont aller après dans de grands groupes. C'est des cours qui visent à initier des étudiants à la bio-inspiration pour aller trouver des sources d'innovation qui vont être transposables justement dans l'entreprise.
Vous dites des grands groupes, mais on voit aussi des ingénieurs dans des petites entreprises ou des gens qui innovent par eux-mêmes sans aller forcément dans les grands groupes.
Tout à fait. Mais la destination principale des ingénieurs qu'on forme, c'est pour aller dans les grands groupes.
Encore aujourd'hui.
Ouais.
Et à vos côtés, donc Arnaud Hotkoviak, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes maître de conférence à l'Institut d'Alembert à l'Université Pierre et Marie Curie et vous étudiez l'ingéniosité des araignées. Donc vous êtes, vous, dans la recherche dure.
Oui, donc dans le cadre d'une collaboration avec l'Université d'Oxford, le département de zoologie de l'Université d'Oxford, on s'est intéressé à la mécanique des soies de capture d'araignées et on s'est aperçu qu'au-delà de leur fonction d'adhésion, qui permettent d'attraper les insectes, ces soies présentent des propriétés mécaniques très particulières puisqu'elles passent de liquide à solide. Donc on a pu élucider l'origine de ce mécanisme et puis reproduire des soies de façon synthétique.
Kalina Raskin, il y a plein d'exemples dans le biomimétisme. Alors peut-être que vous avez l'impression qu'on les cite toujours un peu les mêmes, mais pour le grand public, c'est important. On pense par exemple au TGV japonais.
Alors effectivement, le TGV japonais, qui est inspiré du Martin Pêcheur, qu'on a d'ailleurs utilisé comme le logo du Sebios, donc c'est quand même un exemple emblématique et qu'on reconnaît. Donc effectivement, il se trouve que le TGV Shinkansen doit traverser des zones montagneuses à grande vitesse, donc de nombreux tunnels. Ça génère une surpression, une onde de choc, des vibrations, du bruit. Et pour pallier à ce problème-là, ils ont réfléchi donc à l'aérodynamisme du nez du train. Et il se trouve que dans l'équipe d'ingénieurs, il y avait un ornithologue et qui s'est dit finalement, le Martin Pêcheur, il est à peu près soumis aux mêmes contraintes. Il doit passer à grande vitesse de l'air à l'eau en créant le moins de turbulences possible pour pouvoir avoir une chance d'attraper sa proie. Et donc, ils se sont inspirés du bec du Martin Pêcheur pour penser le nez du TGV Shinkansen.
Voilà un exemple concret déjà bien réalisé et bien connu. Donc vous l'avez entendu, on vous l'avait dit, le biomimétisme, c'est innovant et il y a plein d'applications.
Des questions, des témoignages, des idées? Écrivez-nous à c'estpasduvent@rfi.fr.
Vous écoutez C'est pas du vent sur RFI, vous avez bien raison, nous sommes à Senlis, à 50 km au nord de Paris, à l'occasion de Biomim Expo, le premier salon du biomimétisme qui réunit tous ceux qui sont passionnés par cette science. Alors Kalina Raskin, est-ce que le biomimétisme, ça peut être une clé pour nous apprendre à mieux respecter la nature selon vous ?
Oui, c'est une clé pour mieux respecter la nature puisque c'est une source d'inspiration quasi inépuisable. On estime aujourd'hui que le nombre d'espèces présentes sur Terre, c'est environ 10 millions d'espèces. Alors bien sûr, avec les problèmes d'érosion de la biodiversité qu'on connaît, mais cette biodiversité-là, en termes de chimie, en termes de gestion énergétique, en termes de matériaux, elle a quasiment résolu l'ensemble des défis qu'on souhaite aujourd'hui, auxquels on souhaite aujourd'hui répondre. Donc oui, le vivant, source d'inspiration et donc source de préservation de cette biodiversité-là, parce que réservoir de connaissances.
Alors justement, quand on écoute les différentes conférences ici, c'est vrai que ça inspire le respect. Franck Zahl, par exemple, moi j'ai été très impressionnée en préparant cette émission par tout ce que peut nous apporter le vert marin. On ne s'en rend pas compte, quand on marche sur la plage, on voit des petits tourbillons de sable et en fait ce qu'il y a dessous a des capacités absolument exceptionnelles. Vous travaillez dessus depuis plus de 20 ans, alors expliquez-nous sur quoi vous travaillez en particulier.
Alors oui, en fait, c'est une longue histoire, hein, parce qu'en fait, quand on parle de biomimétisme, en fait, c'est souvent, en fait, ça commence par la recherche fondamentale. Donc moi, j'étais pendant une quinzaine d'années chercheur au CNRS, et je m'intéressais à une question de recherche fondamentale, à essayer de comprendre comment un ver marin respire entre la marée haute et la marée basse. Vous voyez, purement recherche au CNRS. Et finalement, en travaillant sur cette question, je me suis aperçu donc, que pour moi, la respiration, c'était lié au sang. Et donc j'ai commencé à décortiquer la molécule de ce ver marin. Et je me suis aperçu en fait qu'on avait trouvé un peu l'ancêtre du globule rouge. donc l'ancêtre du globule rouge, donc avec énormément de bénéfices sans les contraintes. C'est-à-dire qu'ici, autour de cette table, on a tous des globules rouges, on a tous un typage sanguin. Et finalement, on avait trouvé un donneur universel. Et donc, à partir de là, donc, j'ai pu démontrer en fait, que cette molécule était transfusable à tous les groupes sanguins. Et donc, vous voyez, c'est en fait le biomimétisme, c'est quand même un long procédé. Donc, on parlait du nez du train au Japon. Mais derrière tout ça, il y a énormément de recherches fondamentales. Donc, c'est pas quelque chose qu'on fait en claquant des doigts. C'est vraiment quelque chose qui se fait dans la continuité de la recherche.
Et alors donc, cette hémoglobine du ver marin, vous dites, ça peut être du sang universel, on peut imaginer des transfusions vers les humains à partir de cette hémoglobine du ver marin ?
Alors tout à fait, donc aujourd'hui on développe une des applications d'un produit que l'on a développé qui s'appelle Hemoxicarrier, et on développe ça avec l'US Navy, l'armée américaine qui est venue nous chercher parce qu'ils avaient des problèmes, vous imaginez, en fait sur les champs de bataille, et donc ils cherchaient une molécule qui était capable d'oxygéner notamment le cerveau d'un militaire, puisqu'en fait leur problème c'est pas forcément le choc hémorragique, c'est les bombes qui vont créer des AVC en fait au niveau cérébral, une molécule qui était capable d'oxygéner en fait le cerveau. Et donc ils ont testé notre produit, donc on est capable, donc on leur fournit du produit et ils ont démontré en fait qu'il y avait une efficacité d'utiliser la molécule à la place de transfusion globulaire. Donc oui, ça
c'est
peut être.
C'est même plus efficace que le sang humain.
Alors oui, alors le sang humain de toute façon il va pas passer parce que quand on parle d'ischémie cérébrale en fait on parle en fait de réduction de la taille des vaisseaux. Mais cette molécule là est je dirais 50 fois plus efficace qu'un globule rouge et 250 fois plus petite. Donc elle a énormément d'avantages pour tous ces problématiques que l'on appelle l'anémie ou l'ischémie.
Et quelles sont les autres applications ?
Alors aujourd'hui, donc, quand j'ai démarré en fait, cette société, donc j'ai créé cette société en 2007, donc c'était avec une volonté de faire un substitut sanguin universel. On continue cette voie-là puisqu'on travaille sur cette voie-là. Mais on a été aussi approché par d'autres domaines thérapeutiques. Et aujourd'hui, donc, c'est plus une belle histoire puisqu'on est en clinique. Donc aujourd'hui, donc, on a développé un produit qui s'appelle Hemo2Life. Et donc, il y a des patients qui ont été sauvés grâce à ce produit-là, puisqu'on a déjà sauvé 8 patients à partir de ce produit-là. C'est une solution qui permet de donner du temps aux chirurgiens qui font de la greffe d'organes. Vous savez, la transplantation, on en a beaucoup parlé dans les semaines passées. C'est un problème de santé publique. Il y a à peu près 1000 patients supplémentaires en France qui sont sur les listes d'attente, qui attendent un rein, un poumon, un foie, etc. Le problème, c'est le temps. Et donc finalement, un chirurgien, quand il va collecter un organe en fait, chez un donneur et qu'il va le greffer chez un receveur, vous voyez bien hein, les hélicoptères, les avions, les voitures, les motards, etc. C'est un problème de temps. Et donc en regardant ce que faisait le ver à marée basse, c'est-à-dire qu'il arrêtait de respirer. Et pour moi, en fait, un ver qui arrête de respirer, c'est comme un organe qu'on déconnecte de la circulation sanguine. Et donc en lui mettant en fait, la bouteille d'oxygène que j'avais trouvée avec ces molécules d'hémoglobine, on a permis de gagner du temps. Et aujourd'hui, on est capable de garder un organe pendant 7 jours, alors que maintenant, c'était quelques heures, juste en regardant comment ce ver fonctionnait sur la plage.
Mais alors, j'imagine qu'il a fallu prendre des précautions sanitaires absolument draconiennes.
Alors, ça va peut-être se rapprocher de mon collègue d'à côté, puisque finalement, bien évidemment, au démarrage, tout ça, c'était, on regardait ce qui se passait dans la nature, on allait chercher nos arénicoles sur la plage. Aujourd'hui, bien évidemment, on ne fait plus du tout ça, on fait de l'aquaculture, ce qui en fait, se rapproche un peu de l'agriculture. Donc, on élève notre matière première, puisqu'on appelle ces vers de la matière première aujourd'hui, dans des conditions complètement tracées, contrôlées. Le produit est extrait aux normes pharmaceutiques. Donc, tout ça, c'est vraiment, ça a été les premières années, en fait, de cette société. C'est comment je peux trouver cette molécule sans bien évidemment aller détruire la biodiversité.
Et ça doit être compliqué aussi d'affronter les lobbies qui ne s'attendaient pas à surgir comme ça, ver marin.
C'est marrant, il y a une personne que j'aime beaucoup et je crois qu'il est là demain, c'est Idriss Aberkham, qui dit en fait dans l'innovation de rupture comme la nôtre, en fait il y a 3 réactions. La première, tu es fou. C'est n'importe quoi, tu ne vas pas y arriver. La deuxième, c'est dangereux. Donc ça, on l'a passé. Hein. Donc ça, c'était le début, on l'a passé. Après, c'est dangereux. C'est dangereux parce qu'on ne sait pas ce que c'est, une hémoglobine de ver marin. Ça, on l'a passé puisqu'on a déposé notre dossier en fait, à l'ANSM qui a été accepté. Et puis, vous allez voir, dans quelques temps, on dira, ah, bah, c'est normal. Et donc, oui, voilà, c'est un parcours du combattant. On n'arrive pas là comme ça, d'une façon claquant des doigts. Il faut vraiment croire à son projet, avancer, convaincre. Et c'est vraiment quelque chose qu'on fait tous les jours. Quoi.
Et la troisième phase, donc ?
Ben, la troisième phase, c'est normal. C'est-à-dire que ce produit-là, maintenant qui est dans les blocs, c'est un produit qui est conditionné dans un tube avec un nom dessus, un logo. On va dire que c'est normal et on va l'utiliser pour la greffe d'organes.
Mais donc là, vous êtes parti sur un champ d'application absolument colossal, j'imagine.
Alors, c'est ça qui est intéressant, c'est que, vous voyez, à partir d'un ver marin, d'une question de recherche fondamentale, on parlait tout à l'heure des grands groupes, il y a un représentant de L'Oréal ici. En fait, on est contacté par tous les grands groupes pharmaceutiques, par les groupes cosmétiques. On a parlé d'Air Liquide ce matin, on est contacté par Air Liquide parce que l'oxygène, ça leur parle. Et donc, c'est clair qu'à partir d'une petite innovation comme ça, en fait, on est vraiment dans quelque chose qui va complètement révolutionner la façon de penser. Est-ce qu'on savait qu'il y a encore quelques temps, on était capable de garder un greffon si longtemps pour aller le greffer un peu plus tard? Et aujourd'hui, il faut savoir que rien que le fait de garder des greffons plus longtemps, ça veut dire qu'aujourd'hui, on élimine de la transplantation 20% des greffons. Ces 20% des greffons expliquent la liste d'attente qui augmente. Aujourd'hui, on va pouvoir remettre ces greffons dans le circuit de la greffe. Donc, on espère sauver encore plus de vies grâce à ces vers marins.
Et bien voilà, une innovation absolument vertigineuse. Merci. Pierre Pageot, en quelques mots, vous aussi, vous apprenez à partir du terrain finalement pour votre expérience Ferme d'Avenir.
Tout à fait. Nous, on part d'un constat simple, c'est qu'une forêt produit une quantité de biomasse infiniment fois plus supérieure qu'un champ agricole classique. Et ça se fait sans intrants. Ça se fait sans pétrole, ça se fait sans chômage. Et nous, on se dit, il faut s'inspirer de la nature avec humilité, comprendre le territoire et à partir de là, mettre de l'intelligence pour pouvoir s'adapter à ce territoire et utiliser toutes les forces de la nature. C'est-à-dire ne pas être contre la nature, mais être vraiment avec la nature. Et c'est ça qui permet aujourd'hui, sur des toutes petites surfaces, d'avoir une productivité qui est largement supérieure à une parcelle cultivée de manière classique.
Alors vous, votre ferme d'avenir, c'est une petite parcelle, hein, c'est en Touraine. Et donc, vous notez au fur et à mesure l'évolution de ce qui se passe pour en faire aussi un exemple.
Exactement. On a commencé en fait en 2013. Donc là, on est en année 3. On note chaque élément. On est suivi par...
Quelle est la surface déjà ?
1 hectare 4. Mmh. On est suivi par quelqu'un de l'INRA, donc qui suit vraiment et qui note.
L'Institut National de la Recherche Agronomique.
Exactement. On cherche à démontrer qu'en 5 ans... Entre 4 et 5 ans, selon la météo, on arrive à un équilibre économique sur une toute petite parcelle en créant 3 emplois. Et ça, pour un investissement moins fort qu'un tracteur. Aujourd'hui, un tracteur, ça coûte environ 125 000 euros. Donc nous, on est en train de montrer qu'avec peu de moyens, peu d'investissement sur des petites parcelles, on fait de la gradation des sols, on ne détruit pas les sols et on crée de l'emploi. Et on cultive. Alors nous, on est en micro-maraîchage, donc des légumes majoritairement, mais on plante également des fruitiers, donc des fruits. Et en plus, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais on produit des produits de qualité. Aujourd'hui, tout le monde se rend compte que les produits déjà ont plus de goût et en plus sont mauvais pour la santé. Donc on répond à l'ensemble de ces problématiques avec humilité et vraiment de l'observation de la nature, quelque chose qu'on a finalement assez oublié.
Alors il faut rappeler quand même peut-être pour les auditeurs le principe sur lequel vous appuyez, c'est-à-dire le principe de la permaculture.
Tout à fait. Alors la permaculture, il y a plusieurs définitions. On pourrait dire, pour reprendre la thématique dans laquelle on est, que la permaculture c'est le biomimétisme appliqué à l'agriculture. La définition un petit peu plus institutionnelle, c'est créer des écosystèmes humains pérennes et résilients. Donc il y a vraiment l'être humain au centre, mais dans un écosystème pérenne, donc qui peut résister aux chocs. Nous, on part de deux constats. On est déjà en train de connaître deux chocs forts. Choc environnemental, avec les changements climatiques, pas besoin de convaincre. Maintenant, on est à peu près tous d'accord là-dessus. Et aussi, problématique autour des ressources fossiles. Aujourd'hui, l'agriculture, elle est extrêmement dépendante des ressources fossiles. Et donc nous, on est en train de créer des écosystèmes qui, au-delà de tous les éléments que je vous ai cités par avant, sera résilient et pourra supporter également ces deux chocs.
Et l'objectif, donc, ça s'appelle Ferme d'Avenir, parce que c'est à partir de ce pilote, montrer qu'on peut reproduire ce que vous faites partout ailleurs.
Exactement. Le but du jeu, même c'est vraiment l'essaimage. Et d'ailleurs, c'est même le but du jeu, c'est d'essaimer par-delà le territoire. Alors, nous, on est en France et il y a déjà beaucoup de choses à faire en France et on veut déjà travailler sur ce premier territoire. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans le monde, il y a une extrême majorité de micro-parcelles. Et donc, si demain, on voulait faire muter, faire ressembler les parcelles agricoles à ce à quoi elles ressemblent en France, ce serait juste structurellement impossible. En fait. Donc c'est aussi résilient en ce sens et pérenne, puisqu'en fait le modèle qu'on est en train de développer est SMAP de par le monde.
Et on peut voir le résultat de vos travaux sur Internet, par exemple.
Bien sûr,
on peut
alors
suivre.
Vous pouvez tous aller sur femmedavenir.org qui permet de suivre les travaux, l'évolution. On publie tous nos chiffres, on prend des photos, il y a également notre Facebook. Le but du jeu, c'est vraiment d'ouvrir. On est vraiment sur une logique open parce que nous, ce qu'on cherche à faire, c'est à essaimer et transformer le système agricole actuel.
Voilà, partir de la nature et non pas lui imposer des choses et que ça nous revienne. En effet, boomerang, c'est ça aussi, le biomimétisme. On va vous faire découvrir plein d'autres innovations et plein d'autres recherches, toujours installées sur le campus du Cébios, ici à Senlis, juste après le flash d'info. À tout de suite.